Mesdames, Messieurs, auditeurs et auditrices des programmes du studio Kalangou, il est 18h15 à Niamey. Bonsoir et soyez les bienvenus dans votre émission Forum du studio Kalangou, une émission dans laquelle se font des échanges et des débats sur des thématiques importantes de la vie et qui vous permet d'obtenir des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Il s'agit d'une émission que le studio Kalangou diffuse à travers ses 45 radios partenaires réparties sur l'ensemble du territoire national du Niger. Le thème objet de notre débat de ce soir porte sur les causes, les conséquences et les perspectives du retard académique à l'université Abdou Moumine Dinyami. Qu'est-ce qui est aujourd'hui à la base du retard académique à l'université Abdou Moumine Dinyami? Quels sont les effets de ce retard académique ou ses conséquences sur la vie des étudiants et sur le pays en général? Et quelles peuvent être les perspectives ou solutions envisageables? Mesdames, Messieurs, auditeurs et auditrices, c'est donc pour vous apporter des réponses satisfaisantes à toutes ces questions posées et bien d'autres que nous avons invité Monsieur Munkel Haruna, ancien chercheur à l'ENS et secrétaire général du rectorat de l'Université de Niamey. Nous avons invité Monsieur Mamadou Chiroma Mustapha, qui est le chargé aux affaires académiques au niveau de l'UNUN, l'Union des étudiants nigériens à l'Université de Niamey, et également M. Wisliman Ransaratan, vice-président national de l'Association nationale des parents d'élèves. Nous avons également pour ce forum invité le ministère des enseignements supérieurs, de la recherche et de l'innovation, mais qui n'ont pas répondu présent pour la tenue du présent forum. Pour la présentation, c'est Bakim Batouré Al-Mustapha. Créée en 1971, l'université Abdou Moumine de Niamey constitue la première université de l'État du Niger qui a débuté à l'époque avec l'école des sciences devenue aujourd'hui faculté des sciences et techniques. L'université de Niamey est aujourd'hui constituée de plusieurs facultés dans lesquelles s'inscrivent les élèves après l'obtention de leur diplôme de baccalauréat pour étudier dans divers domaines tels que la médecine, le droit, l'économie, les sciences exactes et bien d'autres sciences. Fonctionnant auparavant sur la base du système maîtrise et doctorat, depuis aujourd'hui plus d'une décennie, l'Université Abdou Moumine Niamey fonctionne sur la base du système LMD, c'est-à-dire le système conduisant à l'obtention des diplômes de licence, master et doctorat. Il faut souligner que cette université, qui est la plus grande université de l'État du Niger, est aujourd'hui frappée par un retard académique inédit qui décourage les nouveaux bacheliers voulant s'inscrire dans cette université pour poursuivre leurs études supérieures, qui partent souvent s'inscrire à l'étranger ou bien dans d'autres instituts nationaux pour poursuivre leur cursus académique et quitter l'université qui est plongée dans le retard académique. Ce retard a donc des effets sur l'évolution académique des étudiants et peut même impacter le système éducatif en général et constitue donc une question importante qui mérite un traitement minutieux. Pour ce faire, nous allons demander au secrétaire général du rectorat de l'Université Abdou Moumine Niamey, M. Haruna Munkeila, qui est enseignant-chercheur à l'ENS, de nous dire comment aujourd'hui se présente la situation de retard académique à l'Université de Niamey.
Ok, merci. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour avoir invité l'Université Abdou Moumouni à participer à ce débat, ce forum sur un thème d'une brûlante actualité qui malheureusement s'installe dans la permanence, puisque c'est une problématique qui s'installe dans la permanence à partir du moment où le problème du retard académique, ça fait plusieurs années que nous le portons. Et je voudrais donc vous remercier en tout cas d'avoir eu cette initiative de traiter cette question autour de la table à la fois les camarades de l'Université Abdou Moumine de Niamey, notamment de l'Union des étudiants nigériens à l'Université de Niamey et puis les parents d'élèves. Je voudrais donc vous remercier en tout cas d'avoir initié ce débat. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour peut-être en une minute rapidement présenter l'université Abdou Moumine de Niamey, qui est une université, comme vous l'avez souligné, qui est la plus grande université, la plus vieille Nous avons à peu près 375 enseignants-chercheurs pour 25 000 étudiants. Si vous faites le ratio étudiant-enseignant-étudiant, vous voyez déjà ça fait un enseignant pour 70 étudiants, là où les normes de l'UNESCO sont à un enseignant pour 30 étudiants. Et nous avons à peu près 500 personnels administratifs et techniques qui appuient les différentes missions de l'université. Et nous avons 6 facultés, peut-être que ce n'est pas la peine de les citer, mais nous avons aussi 3 instituts de recherche. Nous avons une école normale supérieure, nous avons 46 masters de recherche, 32 masters professionnels, 22 licences professionnelles, 26 licences générales. Et nous venons avec la Banque mondiale d'avoir 2 centres d'excellence, un centre d'excellence sur les productions pastorales au niveau de la faculté d'agronomie, un centre d'excellence émergent pour l'enseignement des mathématiques et des sciences au niveau de l'école normale supérieure. Et donc, vous savez que la particularité de cette année au niveau de l'université, avec la COVID-19, puisque les établissements ont été fermés depuis entre le 29 mars, la réouverture, ce n'est intervenue qu'à partir du 1er juin. Et déjà, cette situation fait suite à une grève des enseignants-chercheurs, notamment pour contester certaines dispositions de la réforme que le ministère de l'Enseignement supérieur a engagée. Et donc, du coup, la particularité de cette année, c'est que nous avons beaucoup de retard. C'est vrai que par les années antérieures aussi, nous avons des retards, mais cette année, c'est une année particulière. Et vous voyez que, à cet effet, le ministère de l'Enseignement supérieur a pris un arrêté pour un peu prolonger le calendrier académique jusqu'au niveau du 7 jusqu'en août, mais aussi pour essayer de prolonger pour ceux qui ne le peuvent pas jusqu'au niveau de décembre les semestres pairs, hein, puisque vous savez qu'avec le système LMD, nous avons une semestrialisation des enseignements. Nous avons 2 semestres par an, un semestre qui court de septembre à janvier, un autre qui court de février à juin. Et donc, du coup, avec ces 2 événements essentiels, la grève des enseignants-chercheurs et la situation sanitaire qui est intervenue dans notre pays à l'échelle mondiale, ça perturbe beaucoup ce calendrier académique. Voilà.
D'accord. Donc, merci Haruna Munkela, secrétaire général du rectorat. Nous allons à présent revenir vers Mustapha Tchouroma, qui est le chargé aux affaires académiques de l'Union des étudiants à l'Université Abdoumoun de Niamey, pour vous poser la question de savoir quel effet aujourd'hui, comment ces retards académiques impactent l'évolution académique des étudiants.
Merci beaucoup. Nous tenons d'abord à remercier le studio d'avoir invité le comité exécutif de l'UNUN à travers notre personne pour assister à ce forum qui est d'une importance capitale, comme tout le monde le comprend. L'université Abdoumoun de Niamey est, comme toutes les autres universités cette année, plongée dans un retard. Ce qui a déploré, c'est l'absence totale du MESRI qui... on doit dire en majorité tout le retard que les universités rencontrent, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, doit prendre une grande partie des charges de ces retards. Donc, c'est pour cela que nous déplorons énormément leur absence et nous osons espérer que dans les prochains forums, ils pourront se déplacer et venir qu'on fasse le vrai débat et qu'ils puissent comprendre leurs lacunes, parce qu'on a l'habitude de leur dire les problèmes dans leur bureau, mais il faut que ça soit public pour que toute la nation puisse comprendre réellement d'où sortent les vrais problèmes
de
l'université. Il faut parler des causes, ce qui engendre, si vous le permettez, le retard au niveau de l'université Abdoumoun de Niamey. La première cause, c'est vraiment la situation des infrastructures. Il y a un sérieux problème d'infrastructure à l'université Abdoumoun de Niamey. Quand il faut faire le ratio des différentes années depuis l'avènement du système LMD, comme vous avez à le dire, le système LMD nécessite un certain nombre d'accompagnements, de mesures, d'infrastructures qu'il fallait mettre à la disposition de l'université et dont l'État a été incapable de le faire jusqu'à présent. Là où pour construire un amphithéâtre, il faut prendre 7 ans, 8 ans. Et je pense que ce n'est pas réellement comprendre le sens du système LMD. C'est l'une des causes principales du retard. La deuxième cause, c'est les grèves. Mm-hmm. Les grèves. Quand il faut parler des grèves, en majorité, c'est là où je dis que je déplore l'absence du ministère, parce que généralement, il faut parler des grèves et des enseignants et des étudiants. Mm-hmm. La majorité de nos grèves, comme on a le coutume de le dire, c'est totalement lié au ministère de l'enseignement supérieur. Mm-hmm. Donc, c'est ce qui fait que, quand vous voyez, à partir de l'avènement du système LMD, en 2007, mm-hmm. je pense, donc là... Les premières grèves qui ont émané, je pense, c'était les grèves de 2010, quand il y a eu l'avènement du régime exceptionnel de Saloui Gibo, mm-hmm. et où il y a eu un problème entre les enseignants et le régime. Il y a eu une grève d'un temps et ça a créé un retard. À partir de cela, il faut revenir en 2014 encore, mm-hmm. où les grèves des étudiants... pour des questions d'assistance sociale, bourse, aide sociale et tout, a créé un sérieux problème entre l'État du Niger et les étudiants de l'Université de Niamey à travers le comité exécutif qui a pris encore un temps du retard. Mm-hmm. Et à partir de 2014, il faut rechuter en 2017, mm-hmm. où il y a eu le combat générationnel qu'on connaît de tous avec l'exclusion de cinq de nos camarades, qui a aussi conduit à creuser encore ce retard, qui fait en sorte que, quand vous voyez, ce sont des successions de retards. Et dans une situation académique, quand on parle de l'académie, il faut voir le nombre de fossés que ça crée. Et en un intervalle de moins de 10 ans, on a bouffé pratiquement, excusez-moi du terme, plus de 2 ans. Et en dehors de ce retard du combat générationnel qui a duré un temps, il faut revenir à la question récente de la grève des enseignants-chercheurs qui ont eu un bras de fer avec le gouvernement suite aux nouveaux aux réformes qui doivent être appliquées, mmh. au niveau des élections du rectorat, au niveau des élections des doyens, et cela a fait pratiquement plus de 6 mois aussi. Donc, et en dehors de cela, vient s'ajouter aujourd'hui la crise actuelle que pratiquement toute la planète a eu à subir, Covid-19, où on a fermé les universités et tous les établissements publics pendant au moins 71 jours. Mm-hmm. Quand vous faites le cumul de toutes ces grèves, ça fait plus de 4 ans d'année académique normale qui est en train d'être consommée. C'est dire que qu'on soit en année académique 18-19 ou 17-18, mmh. c'est très compréhensible. C'est montrer même que les étudiants et leurs enseignants ont fait un déplacement énorme de soi en essayant de rattraper ce retard. Parce que quand on fait moins 4 ans dans ces années, on doit se retrouver en 2015-16. Mmh. Et là, c'est montrer l'effort que les étudiants, malgré les conditions très détestables de vie qu'ils vivent, arrivent à supporter la charge.
Donc, merci Mustapha Turoma. Nous allons à présent revenir avec le représentant des parents d'élèves, qui est le vice-président de l'Association nationale des parents d'élèves, M. Wisliman Ransaratan. Dites-nous quelle appréciation aujourd'hui les parents d'élèves font de ces retards académiques qui bloquent le parcours académique des étudiants.
Bien, salam alaikum. Nous vous remercions de l'opportunité que vous nous offrez en tant que structure partenaire de l'État dans le cadre de la gestion de la scolarisation de nos enfants. Et nous osons espérer aussi que ce forum ou ce plateau aura une grande portée qui puisse attirer l'attention des uns et des autres. Je voudrais dire par là des décideurs quant à la gestion de cette question qui nous préoccupe à plus d'un titre en tant que parents, parce que nous sommes les premières victimes sur lesquelles reviennent toutes les charges et les conséquences de mauvais fonctionnement du cursus scolaire des enfants. Comme vous l'avez dit, les effets, vous savez, depuis l'avènement de l'MD, j'étais en 2014 à une formation au niveau de l'EMIG pour nous faire comprendre c'est quoi les LMD. Ensuite, nous nous sommes retrouvés à Dosso aussi en 2018, organisé par la modernisation sociale dans le même thème pour comprendre c'est quoi, quels sont les blocages. Mais comme l'a décrit l'étudiant, il a brossé la situation. Uh-huh. Nous venons de commencer à comprendre certaines situations. Mais au-delà de ces mouvements d'humeur, que ce soit des enseignants-chercheurs, parce que nous étions dans le processus de débat quand il y a eu l'exclusion des 5 étudiants, le statut des universités, et tout ça, nous étions impliqués, mais malheureusement, je ne recule pas de le dire, que nous sommes déçus par le ministère des Enseignements supérieurs et de la Recherche. Nous sommes déçus parce que, comme il l'a dit, aujourd'hui, voilà une occasion qui nous est offerte d'échanger et comprendre. Vous êtes redevables vis-à-vis de l'État. Et l'invitation des médias, ce sont des partenaires qui sont là pour éclairer et faire comprendre le peuple du fonctionnement d'une structure. Vous êtes invités, vous ne venez pas, c'est là, et vous savez qui, avec qui vous devez être là. Moi, je dis que ça dénote une certaine, un mépris, excusez-moi du terme, parce que quand on sait que le SNECS ou les enseignants-chercheurs seront là, les étudiants seront là, les parents sont là, au moins la bonne moralité voudra que le ministère envoie quelqu'un. Je dis pourquoi ? Parce que aujourd'hui, pour un enfant qui doit finir sa licence en 3 ans, nous nous retrouvons, nous, avec nos enfants pendant 6 ans. Et il va te dire qu'il n'a jamais redoublé. Quand quelqu'un fait 6 ans, il va te dire qu'il n'a pas redoublé. Comment le faire comprendre ? Et ça, c'est la responsabilité, comme l'a dit l'étudiant Mustapha, ou comme l'enseignant-chercheur l'a développé, c'est dû effectivement à l'incompatibilité de la gestion du ministère de l'Enseignement supérieur de son domaine. Parce que s'il gérait très bien le domaine, les infrastructures seraient là à temps. Les enseignants seraient très bien entretenus. Parce qu'un enseignant mal entretenu est un danger pour l'enfant, pour le pays. Et un étudiant qui n'est pas dans de très bonnes conditions de travail, du logement jusqu'à l'amphi ou la salle dans laquelle il prend cours, c'est vraiment regrettable parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une grande salle à Niamey où on ne voit pas des étudiants, jusqu'à l'Académie des Arts, où il n'y a pas de sonorisation. L'enseignant est en bas là sur le tatami de basket, ou je ne sais pas quel sport il utilise le tatami, c'est le karaté, je crois, ou autre. Et les étudiants sont en haut. C'est dire qu'en gros, en résumé, par rapport à votre question, que le parent d'élève que nous sommes écœurés et nous sommes vraiment choqués de la façon dont le cursus scolaire de nos enfants à l'université Abdou Moumouni, notamment la plus grande université, est conduit.
D'accord, merci Monsieur Wislimane Ransaratan, vice-président de l'Association nationale des parents d'élèves. Nous allons à présent observer une petite pause avant de revenir en profondeur parler des causes de ce retard académique à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Alors, merci, monsieur le secrétaire général du rectorat de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, ancien chercheur à l'ENS. Dites-nous aujourd'hui quelles sont les causes profondes de ces retards académiques qu'on observe à l'Université Abdou Moumouni.
Merci pour cette question. Je voudrais tout d'abord, avant de répondre, exprimer quand même toute ma reconnaissance et mes encouragements à tous les collègues enseignants, chercheurs, personnels administratifs et techniques. Qui concentrent des efforts énormes pour accomplir leur mission, souvent dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. On l'a évoqué tout à l'heure avec notamment la description qui a été faite des certains amphithéâtres, des infrastructures. Pour ce qui concerne les causes, elles sont nombreuses. Je pense que vous avez des causes qui sont internes, des causes qui sont externes. Vous avez des causes qui sont liées aux enseignants, des causes qui sont liées aux apprenants, des causes qui sont liées à l'environnement pédagogique et à l'organisation pédagogique, des causes qui sont également liées au pilotage, mais au niveau supérieur, notamment au niveau de la superstructure. Je voudrais parler ici du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche, qui est le ministère de tutelle, et du gouvernement. Pour ce qui concerne les causes, je pense qu'il y a déjà un certain nombre qui ont été évoqués, notamment la question des mouvements sociaux qui sont fréquents et qui perturbent le fonctionnement de l'institution depuis plusieurs années. On a essayé à un certain moment, en 2005-2006, de stabiliser les années académiques. Malheureusement, c'est très très difficile et vous savez que le système LMD est un système qui est très exigeant, qui ne s'accommode pas de perturbations, d'autant plus que vous avez des semestres qui sont bien tracés dans l'année. C'est de septembre à janvier pour le semestre impair, et de février à juin pour ce qui concerne les semestres impairs. Donc, si vous avez des perturbations, naturellement, ça va se répercuter sur les années suivantes et sur toutes les années qui viennent après. Donc, C'est un système qui est très exigeant et malheureusement, compte tenu du contexte dans lequel nous sommes au niveau de l'État de façon générale, mais aussi au niveau de l'université qui végète dans un certain nombre de difficultés, et vous avez souvent des mouvements sociaux qui sont à la fois portés par les étudiants ou les enseignants-chercheurs, récemment par les personnels administratifs et techniques pour ce qui concerne des revendications sur des droits statutaires. Et vous avez et donc tous ces problèmes qui se posent, qui sont malheureusement imprévisible. On a évoqué la question de l'insuffisance des infrastructures. Je pense que c'est un point essentiel. Quand on regarde aujourd'hui les conditions dans lesquelles les apprentissages se font, vous avez souvent, dans certaines salles, des étudiants qui sont dans les couloirs, qui prennent cours dans les couloirs. C'est inadmissible dans le contexte. Et quand on regarde malheureusement le budget d'investissement, moi j'étais récemment aux discussions budgétaires au niveau du ministère du Plan, mais on voit quand même qu'il n'y a pas grand-chose en termes d'investissement de l'État. Parfois, c'est 2 milliards par an. Et le plus souvent, c'est des prévisions qu'on fait qui ne sont pas exécutées. Et quand on le fait aussi, vous avez, à partir du moment où la carte universitaire s'est élargie, il y a de nouvelles universités qui sont là, qui n'ont aucune infrastructure. Ces ressources-là sont orientées vers ces nouvelles universités. Et donc, du coup, les universités qui existent déjà ont des difficultés, en tout cas, à pouvoir drainer les ressources financières pour réaliser des investissements, acquérir des équipements. Nous avons aussi la question de l'insuffisance de ressources humaines. J'ai parlé tout à l'heure du ratio enseignant-étudiant, un enseignant pour 70 étudiants. Je pense que c'est un gros problème. On voit en moyenne de 2017 à aujourd'hui, le recrutement d'enseignants-chercheurs, c'est autour de 16, 17, 18 personnes par an. C'est vraiment insuffisant. Nous avons un recours effréné à des vacataires. Aujourd'hui, au niveau de l'université, nous avons plus de 500 vacataires qui nous appuient parce que simplement, les ressources humaines que nous avons au niveau de l'université ne suffisent pas pour nous permettre d'accomplir notre mission. Et vous avez aussi le problème des ressources financières qui sont insuffisantes. Aujourd'hui, quand on regarde la subvention que l'État accorde à l'université, ça fait 3 ans depuis que nous sommes au compte unique qu'on a des difficultés même à assurer les dépenses de personnel. À la fin de chaque trimestre, le troisième mois, c'est des difficultés pour assurer le salaire. Imaginez là où on a des difficultés pour avoir le salaire. On ne parle même pas des autres dépenses qui sont incompressibles, notamment l'eau, l'électricité, mais aussi le fonctionnement. On ne parle même pas de fonctionnement. Donc, si vous prenez par exemple 2019, on a quoi ? Sur un budget de 7 milliards qui a été prévu pour l'université, finalement, on s'est retrouvé avec des dépenses de plus de 8 milliards, rien que les dépenses de personnel. Donc, il y a toujours un gap de 1 milliard et quelques, 1 milliard et demi pour ce qui concerne la subvention. Vous voyez, par exemple, les vacataires qui sont des personnels d'appui, lorsque vous n'avez pas les moyens pour les payer à la fin de l'année, certains cumulent, c'est un problème. Donc, on a toutes ces difficultés, c'est lié à l'insuffisance de la subvention qui est accordée à l'université. Donc, on a à la fois des facteurs qui sont liés aux mouvements sociaux, des facteurs qui sont liés aux intrants éducatifs. Je l'ai évoqué, l'insuffisance des ressources, que ce soit les ressources financières, matérielles, humaines. Mais nous avons aussi des retards qui sont liés à l'organisation pédagogique. Notamment, par exemple, on a un certain nombre de dispositions qui existent, mais on signale quand même, on enregistre de temps en temps des retards, par exemple, dans la correction de copies, des retards dans certains cours qui sont enregistrés. Je pense que c'est le lieu aussi de le dire que, et là on verra pour ce qui concerne les suggestions, qu'il faut davantage sensibiliser un certain nombre de personnes pour qu'ils puissent accomplir leur mission.
D'accord, donc merci. Nous allons vous demander par rapport par exemple à des facultés au niveau de l'université comme la FCG ou bien la faculté d'économie, il y a souvent des étudiants qui nous disent qu'ils font plusieurs années sans pour autant achever leur cursus de master ou bien qui jusqu'à présent 4 ans, 6 ans après ils n'ont pas pu obtenir le diplôme de master. Est-ce c'est toujours ce problème lié aux infrastructures humaines ou bien qu'est-ce qui explique cela?
Malheureusement, c'est des problèmes qui existent. Et c'est vrai, vous avez la question des infrastructures. On a vu tout à l'heure que pour ce qui concerne spécifiquement la faculté des sciences juridiques et politiques, vous avez des cours qui sont pris à l'Académie des arts parce qu'il y a un problème de salles. Notamment, là, c'est vrai, il y a le problème des infrastructures, il y a le problème des insuffisances aussi des enseignants, chercheurs que j'ai évoqué tout à l'heure. Puisque quand on a scindé la faculté des sciences juridiques et politiques, juridique et économique en deux facultés, normalement, il fallait accompagner cela à travers le recrutement d'enseignants-chercheurs au niveau des deux facultés. Malheureusement, bon, on n'a pas suffisamment de marge de manœuvre au niveau de la subvention pour recruter de façon adéquate le nombre d'enseignants qu'il faut. Mais bon, vous avez aussi d'autres difficultés qui sont signalées, les problèmes avec certains vacataires, vous avez aussi des retards qui existent, hein, qu'il a évoqué tout à l'heure, depuis 2010 et même avant 2010, tout un tas de retards que nous sommes en train d'accumuler et qui se répercutent chaque fois sur les années qui suivent. Donc tout ça, à mon avis, ce sont des aspects qu'il faut prendre en compte. Et bon, vous avez aussi des petits problèmes qui ne sont pas des problèmes majeurs, notamment dans le déroulement normal de l'année académique, les difficultés parfois pour assurer les cours, les difficultés pour assurer les délibérations. Bon, on a eu quelques petites difficultés qui se sont posées spécifiquement au niveau des deux facultés là, mais je pense qu'il est quand même important de dire qu'au niveau de l'université, la situation n'est pas homogène. Hein, vous avez des différences au niveau de facultés, vous avez des facultés dans lesquelles les gens arrivent quand même à s'en sortir, où il n'y a pas beaucoup de retard, mais vous avez des facultés qui cumulent effectivement beaucoup de retard, notamment la faculté des sciences juridiques et politiques et la faculté des sciences économiques et de gestion.
Un exemple de faculté où quand même...
Donc, si vous prenez par exemple la faculté des sciences de la santé, si vous prenez la faculté des sciences et techniques, la faculté de lettres et sciences humaines, la faculté d'agronomie, ou même quand vous prenez l'école normale supérieure, vous avez quand même un certain nombre de... Je dis quand même, la situation, elle est différentielle, mais les retards se posent quand même dans l'ensemble, à des degrés divers.
D'accord, donc merci monsieur le secrétaire général du rectorat de l'Université Abdoumoumou de Niamey. À présent, nous allons demander à Mahamadou Mustapha Tchouroma de nous dire que font les étudiants pour un peu réduire ou bien finir avec ce retard académique.
Et les étudiants font leur partition. Depuis un certain temps, ça fait 2 ans, 3 ans, les comités exécutifs qui se sont succédés au niveau qui représente les étudiants ont décidé de s'engager dans un type de revendication qui va dans le sens d'améliorer les conditions de vie. Parce que à un temps, nous avons compris, nous étudiants, que les plus grands perdants, ce sont les étudiants. Nous avons compris que nous sommes en face des interlocuteurs qui sont ceux de l'État, qui représentent l'État pour les discussions, pour les intérêts, et qui sont toujours démagogiques qu'il faut faire les grèves d'une autre manière, qu'il faut faire les grèves de façon très stratégique et ne pas interrompre les cours directement dès qu'il y a un événement. Certes, c'est très difficile avec la mentalité de nous autres, nos camarades, qui sont habitués, quand il y a des problèmes sérieux, à ce qu'on arrête tout et qu'on se dise qu'il faut qu'on règle les problèmes avant que ça ne puisse continuer. Nous nous sommes dit que le plus important pour nous, c'est de montrer à la face du monde, et nous avons foi au fait que la population, cette population nigérienne, puisse avoir le regain de l'amour des étudiants, des scolaires nigériens que nous sommes, pour nous accompagner dans nos différentes revendications et imposer un comportement au gouvernement là qui, de façon moribonde, refuse de répondre réellement à leurs tâches qu'ils doivent faire. Donc, c'est là le premier point que le comité exécutif de l'UNUN, depuis 2 ans, est en train de mettre en œuvre avec beaucoup de difficultés, parce que c'est très difficile de faire comprendre à quelqu'un qui souffre dans sa chair, de lui dire d'être patient, et que voilà, on essaie de sensibiliser la population pour avoir leur soutien. On essaie de faire des actions très ponctuelles pour montrer notre mécontentement et ne pas les exposer à perdre plus de temps. Donc, c'est dans ce lancer, cette manière de voir, que les étudiants se sont inscrits. En deuxième chose, les étudiants que nous sommes, nous avons décidé de dénoncer ceux qui ne viennent pas faire leurs cours. Mais malgré tout, comme on peut le dire, c'est un mouvement syndical, l'UNUN, qui est partie intégrante de l'ISN, qui souvent ne peut pas s'empêcher d'aller au-delà de cette manière de faire. Et là, quand
l'imposition nous l'impose, comme on le dit, nous allons le faire, mais à cœur, pas à cœur vaillant, en fait. Mm-hmm. Parce que nous nous sommes dit que nous devons donner un exemple à cette nation. Nous nous sommes dit qu'il faut que les étudiants, la structure syndicale de l'IENUN, qui est la section mère de l'ISN, puisse être le repère de la nation et essayer de donner un bon exemple. Mais malgré ça, quand la jeunesse prend le dessus et quand nous voyons que nos problèmes ne sont pas très bien écoutés, nous serons obligés de faire des actions que nous-mêmes, nous ne souhaitons pas réaliser au cours de nos différents
d'accord,
mandats.
D'accord, d'accord. Donc, merci, monsieur Mustapha Turoma. Monsieur Ousliman Naransaratan, vous avez participé à plusieurs rencontres tendant à trouver des solutions pour ces retards académiques qui bloquent aujourd'hui les étudiants au niveau de l'université Abdou Momoun de Niamey. D'après votre compréhension, qu'est-ce qui est la cause de ce retard académique et comment ça impacte les charges des parents d'élèves?
Comme je l'avais dit dans ma première intervention, avant d'y revenir, je profite de l'occasion pour féliciter. Nous avons suivi avec intérêt le renouvellement de la structure dirigeante de l'université Abdou Momouni, l'UNI. Et nous avons découvert des dirigeants à travers leur discours d'introduction des étudiants engagés à changer les anciennes méthodes. Et comme même au niveau du cursus scolaire, on est rentré dans les LMD, je crois que les formes de combat doivent être appropriées à la personne, pas typiquement à la structure, parce que l'USN était né dans un système anarchique où il n'y avait pas de démocratie, dans un régime exceptionnel. Aujourd'hui, c'est la démocratie. Il faut vraiment, je le félicite pour cette adaptation qu'ils voulaient engager, et ils ont le soutien de leurs parents. Maintenant, par rapport au problème, l'enseignant-chercheur n'a pas évoqué un certain, ou l'étudiant, nous. Moi, personnellement, quand on voit un étudiant, au bout de 11 ans, il n'a pas décroché son master, au bout de 6 ans, il n'a pas décroché sa licence, je ne vais pas lier ça directement au manque d'infrastructures seulement. Parce que malgré qu'il n'y ait pas ces infrastructures, il va quand même en salle. Mais qu'est-ce qui fait qu'il va en salle et qu'il n'arrive pas à valider l'année? Il y a question là, et nous savons précisément par rapport à la faculté juridique là, que là, il faut lier la personne, l'enseignant-chercheur. À 90%, les juristes sont les politiciens. Ils n'ont pas le temps d'être à l'université. Il y a beaucoup qui portent des robes de responsabilité politique. Surtout, vous allez à la présidence, vous allez à la primature. Tous les conseillers, ce sont des enseignants-chercheurs. Ils sont en perpétuel mouvement. Nous avons nos enfants. On programme l'unité, de comme ils les appellent l'IV. À la date, l'enseignant n'est pas là. Soit il est à l'étranger pour ses propres cours privés qu'il donne dans les universités ou pour des missions. Et quand il revient, il faut encore reprogrammer. C'est pourquoi je rejoins l'idée de cette façon de vouloir que l'État a voulu vraiment nous faire comprendre par rapport à la gestion de l'autonomie de l'enseignant-chercheur. Parce que quand il est autonome, nous, notre compréhension là, ça nous dépasse. Parce que en tant que citoyen, vous avez une redevabilité. Et votre autonomie ne doit pas primer sur l'intérêt de la nation, l'intérêt du citoyen que nous sommes. Parce que nous sommes allés vers eux. Nous avons discuté avec le SNEX. Nous avons compris qu'il y a un bras de fer. Et ce bras de fer n'a pas sa raison d'être parce que ça impacte sur les étudiants et les parents d'élèves. C'est un bras de fer entre l'intelligentsia. L'intelligentsia, c'est l'homme politique par rapport à l'enseignant-chercheur. Donc, tout ça, là, ce sont les causes masquées, cachées qui sont là. Le statut de l'enseignant en tant que tel. Parce que ça fait un boulot d'étranglement dans le choix et la désignation même des recteurs au niveau des universités, ce qui a mené un grand retard. C'était une grève. Quand il y a eu l'exclusion des étudiants, on nous a brandi ce statut. Quand nous sommes allés vers le ministère pour pouvoir régler, nous en tant que structure de parents d'élèves, le ministère, l'homme politique a sa raison. Et l'enseignant-chercheur a sa raison. Et je reviendrai maintenant sur l'autre aspect de cette faculté, notamment celle des sciences juridiques. Là. Franchement, là, s'il y a lieu de trouver une solution, on ne peut pas comprendre que moi, j'envoie mon enfant à la médecine et j'envoie l'autre enfant à la faculté des sciences juridiques et politiques et que celui-là, au bout de 4 ans, il a son master 1 et que celui-là, au bout de 4 ans, ils appellent ça première année avec 3 niveaux. Dans la même année, vous avez 3 formes d'étudiants qui attendent la validation. C'est à ce genre de questions, c'est pourquoi j'ai déploré l'absence du représentant du ministère de l'enseignement supérieur pour nous éclairer sur ces questions. mission. Mm-hmm. Et vous savez, comme vous avez dit, maintenant je vais revenir à votre question, nous nous en pâtissons. Aujourd'hui, nous avons tous les problèmes du monde. Dès que ton enfant décroche le bac, il ne veut pas l'université publique. Il faut lui chercher un institut. Parce que là, au moins pour lui, il va évoluer en 3 ans, il va finir son cursus. Mm-hmm. Donc, du coup, où est-ce que nous allons trouver cet argent, nous, parents d'élèves? Où est-ce que nous avons... Et l'enfant, tous ceux qui sont à l'université publique, ce sont les enfants des pauvres, pratiquement. Mm-hmm. Je dirais qu'il y a quand même des gens qui sont conscients que l'université publique de Niamey forme mieux que les instituts ou autres. Mm-hmm. Mais malheureusement, tu ne peux pas regarder ton enfant au bout d'une semaine, il se réveille 2 fois pour aller, parce que l'autre et les autres, c'est des grèves, soit la grève des étudiants, ou l'enseignant-chercheur, ou le manque de salaire, ou ainsi de suite.
D'accord. Donc, merci, M. Ousilimane. Nous allons à présent revenir avec l'ancien chercheur, M. Haruna, secrétaire général au niveau du rectorat de l'Université Abdoumoumoune de Niamey, pour poser la question de savoir, selon vous aujourd'hui, quelles doivent être les perspectives pour solutionner ces problèmes de retard académique à l'Université de Niamey.
Okay, ben, merci. Je voudrais peut-être, avant de répondre à la question, réagir à ce que notre collègue parrain d'élève a dit par rapport à la... au cas spécifique de la faculté des sciences juridiques et politiques. Effectivement, au-delà des questions d'infrastructure, j'évoquais aussi dans l'explication du retard académique l'insuffisance des ressources humaines. Nous n'avons pas beaucoup de ressources humaines dans cette faculté en l'occurrence. Et le peu de ressources humaines que nous avons certes, c'est vrai, un certain nombre de collègues qui sont mis à disposition dans les structures de l'État. Et bon, on ne peut pas leur empêcher ça c'est vrai, mais je pense que cela aussi c'est encadré, parce que celui qui est mis à disposition, il y a quand même un certain nombre de charges horaires qu'il doit accomplir au niveau de l'université. Mmh. Et je sais qu'il y a un certain nombre qui le font de façon très honorable, dans la dignité. Voilà, je pense que la question des ressources humaines, elle est fondamentale. Tant que nous allons dépendre de nombre important de vacataires, que nous avons des difficultés à la fin de l'année à payer, le problème va se poser. Je pense qu'il faut recruter. Pour ce qui concerne les conséquences, on le voit, hein, nous avons quand même un brouillage de temporalité au niveau du calendrier académique, avec malheureusement des chevauchements de semestres, des chevauchements d'années académiques, des chevauchements même de promotion, il l'a évoqué tout à l'heure. Mm-hmm. Et ça, c'est des situations réelles qui existent au niveau de certaines facultés, avec l'allongement de la durée de la formation, qui pose un surcoût pour l'État. Mm-hmm. Parce que l'État, les salaires des enseignants vont être payés, les salaires des PAT vont être payés, on va payer l'eau et l'électricité par an. Mm-hmm.
D'accord, donc voilà. Merci très rapidement.
Voilà, pour ce qui concerne les perspectives, je pense qu'il faut, comme on l'a dit quand même, qu'il faut un accompagnement de l'État pour ce qui concerne les infrastructures, pour ce qui concerne les équipements, pour ce qui concerne le recrutement de personnel enseignant-chercheur, personnel administratif et technique, qu'il faut aussi poursuivre au niveau de l'université la mutualisation que nous faisons pour ce qui concerne les salles de cours entre les différentes facultés. Il faut, pour ce qui concerne la systématisation, par exemple, de la correction, des corrections groupées de copies d'examen en impliquant les doctorats, il faut renforcer le suivi des enseignements. Je pense que dans la réforme, ces aspects ont été pris en compte, parce qu'on va renforcer davantage les départements, parce que si les départements ne fonctionnent pas, c'est très très difficile nous puissions faire un suivi assez conséquent des enseignements. Je pense qu'il faut aussi respecter les textes en vigueur, notamment les textes concernant le LMD, qui a beaucoup d'exigences en ce qui concerne la semestrialisation. Il faut que les gens créent les conditions pour respecter la semestrialisation au niveau du LMD. Il faut aussi que certains textes, notamment l'étendue des missions des enseignants-chercheurs, parce que quand même, ceux qui n'accomplissent pas convenablement leurs missions, il y a quand même un certain nombre de dispositions qui doivent être prises. Hein, il a parlé de dénonciation de la part des étudiants, mais les textes prévoient aussi même des sanctions, y compris ceux qui n'accomplissent pas convenablement leurs missions. Je pense qu'un des aspects de la réforme des textes, ça permet aussi de pouvoir régler ce problème-là. Et j'encourage nos collègues à s'acquitter de leur mission, parce que c'est quand même une mission essentielle. On a la responsabilité d'assurer une formation à des cadres. Et cette responsabilité nous interpelle et nous devons assurer convenablement notre mission pour résorber quand même les différents retards.
D'accord, très bien, merci. Donc à présent, Turoma, dites-nous quelles sont les perspectives très rapidement parce que nous sommes presque à la fin de notre émission.
Je vais aller un peu rapidement, mais il faudrait lier les causes et les perspectives. S'il faut voir, il y a vraiment, comme j'ai eu à le dire, le problème des infrastructures. Donc il faudra que l'État du Niger puisse être aussi sérieux dans ce sens pour investir énormément dans l'université et dans les universités publiques du Niger. On ne peut pas comprendre dans un investissement qui recule pour les États, pour une université, la plus grande université du Niger, où avant le budget était de 11 milliards, maintenant ça régresse à 7 milliards pour la subvention. C'est que ça dénote combien de fois le ministère n'est pas sérieux dans la répartition des fonds de l'État qu'on alloue aux institutions. En dehors de ça, les grèves, comme j'ai eu à le dire, le ministère, l'interlocuteur des enseignants-chercheurs et des étudiants doivent être plus sérieux. Le second point, c'est la mise à disposition des enseignants-chercheurs, comme ça, on le dit. Quand l'État du Niger, dans un décret, le recteur ou le doyen ou le chef de département se réveille le vendredi matin, il voit dans Sahel dimanche que ça sort et qu'on dit tel enseignant de tel matricule a été nommé conseiller, a été nommé directeur de quelque chose, alors que lui, dans ses prévisions, il a donné des charges horaires à cet enseignant pendant l'année. Et cet enseignant, il fait la moitié de ses charges horaires de façon obligatoire. Donc quand il le finit, il peut dire qu'il ne vient pas. Et là, ce n'est pas une obligation pour lui de venir. Et là, ce que nous proposons à ce niveau, c'est qu'on limite cela. Vous avez eu qu'à parler de la FSJP. Sur pratiquement 17 enseignants aux environs, plus de 13 sont mis à la disposition de l'État du Niger pour aller occuper des postes de responsabilité politique. Quand quelqu'un doit faire un cours une charge horaire de 160 heures, ça revient à faire la moitié. Ce qui veut dire 120 heures, ça revient à faire 60 heures. Ce qui veut dire qu'il n'a pas assez de temps.
Merci, monsieur.
Permettez d'aller un peu plus rapidement, en une minute. Quand on parle du manque de sérieux, aujourd'hui, quand on finit le cas de la fac de sciences juridiques et politiques, aujourd'hui, la fac de sciences et techniques est en train de rentrer aussi dans ce pan parce que le ministère de l'enseignement supérieur n'est pas sérieux quand il faut mettre à la disposition des étudiants qui doivent aller en stage. Ça fait plus de 2 ans que des étudiants sont là, stagnés, pour seulement aller en stage, revenir.
D'accord, donc, ils n'arrivent pas à faire le minimum. Dites-nous un mot par rapport aux
résumé,
perspectives.
Je m'aligne derrière les perspectives que les deux collègues précédents ont données. Je vais juste augmenter que généralement, quand il y a des situations d'humeur ou de problèmes de négociation entre l'État et les enseignants et les syndicats ou les scolaires, nous devons être impliqués parce que nous sommes les premiers témoins. Et nous avons autorité de venir dire voilà ce qui a été convenu dans le cadre du respect. Parce que généralement, quand il y a des négociations, les gens s'entendent sur quelque chose. Mais par la suite, ce n'est pas respecté. Et c'est là que nous devons intervenir pour dire voilà qui n'a pas respecté ce qui lui a été... on s'était entendu. Et deuxièmement, effectivement, c'est de ne pas éradiquer à 100%, c'est au moins de dépolitiser... de dépolitiser l'enseignement.
Mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de notre émission Forum du Studio Kalangou qui nous a permis d'échanger sur la thématique des causes, conséquences et perspectives du retard académique à l'université Abdou Momoun de Niamey. Nous avons retenu en termes de perspective qu'il faudrait créer les conditions de réduire la mise à disposition des anciens chercheurs. Il faudrait respecter les textes qui sont là et appliquer les textes des sanctions. Il faudrait également impliquer tous les acteurs qui interviennent dans les domaines de l'éducation pour arriver à la réduction du retard académique qui mine l'université Abdou Momoun de Niamey. En espérant que les échanges vous ont permis d'obtenir des réponses satisfaisantes, nous vous disons merci pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont répartis sur ces 45 radios partenaires. Nous étions dans ce forum avec Monsieur Munkel Haruna, enseignant-chercheur à l'ENS et secrétaire général du rectorat de l'université de Niamey, de Monsieur Wissiliman Ransaratan, qui est le vice-président de l'Association nationale des parents d'élèves, et de Monsieur Mahamadou Mustapha Churuma, qui est le secrétaire chargé aux affaires académiques de l'Union des étudiants à l'université Abdou Momouni de Niamey. À la présentation, Bakim Batoura Al-Mustapha. À la régie technique, nous étions avec Abdelkader Tchimbiano. À la régie vidéo, avec Mustapha Ayouba. Merci et à bientôt pour un autre forum sur les thématiques d'actualité. We'll be right back.